Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mercredi soir, 28 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous présenterons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Fin de la visite en Irak du ministre iranien des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie iranienne et les dirigeants de l'Union patriotique du Kurdistan irakien se sont rencontrés à Erbil. Les combattants d'Ansar Allah du Yémen ont affirmé avoir frappé une cible militaire sur la base aérienne King Khalid dans la ville frontalière de Khamis Mushait, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, et manifestation au Tchad contre le CMT et l'ingérence de la France. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères et les dirigeants de l'Union patriotique du Kurdistan irakien se sont rencontrés à Erbil. Lors de la partie finale de son déplacement en Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est rendu mardi 27 avril à Erbil pour rencontrer les responsables de la région du Kurdistan irakien. Outre Bafal Jalal Talabani et Lahour Sheikh Jangi Talabani, les coprésidents de l'Union patriotique du Kurdistan irakien, les membres du conseil de direction de cette union et les autres dirigeants de ce parti politique étaient présents à la réunion. Les dernières évolutions régionales et internationales, les questions d'actualité et les relations bilatérales, les questions économiques et la promotion des relations commerciales entre l'Iran et la région du Kurdistan irakien ont été abordées lors de cette rencontre. Mardi soir, M. Zarif avait également des entretiens séparés avec Nechirvan Barzani, le président de la région du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, le chef du Parti démocratique du Kurdistan irakien, Masroor Barzani, le premier ministre de la région du Kurdistan irakien, et Roubad Talabani, le premier ministre adjoint de la région du Kurdistan irakien. Avoir d'excellentes relations avec Téhéran et assurer la sécurité de leurs frontières afin qu'aucune action destructrice ne soit entreprise contre l'Iran était parmi les points que les responsables de la région du Kurdistan irakien ont exprimés à l'unanimité lors de ces réunions avec le chef de la diplomatie iranienne. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le principal négociateur à Vienne, Abbas Araghchi, a réitéré que la position iranienne reste la même et que toutes les sanctions doivent être levées, soulignant que la Chine et la Russie partagent les opinions d'Iran dans presque tous les cas. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré: toutes les sanctions qui ont été imposées après la mise en œuvre du plan global d'action conjoint, les sanctions Katza, les sanctions imposées sous Obama, aussi bien que celles imposées sous Trump, doivent être levées. Réitérant que l'Iran n'accepte pas que les négociations se poursuivent sans résultat, le numéro 2 de la diplomatie iranienne a déclaré: si nous estimons que les autres parties ne sont pas assez sérieuses, nous arrêterons les pourparlers, mais nous ne sommes pas encore parvenus à cette conclusion.
Le chef de l'équipe négociatrice iranienne au sein de la commission mixte du plan global Action conjoint sur le nucléaire iranien en 2015 a ajouté « Nous avons des défis difficiles à relever, mais le sérieux de toutes les parties est manifeste. La commission mixte a décidé d'accélérer un peu les choses. Les groupes de travail sur les obligations liées au plan global d'action conjoint et la levée des sanctions commenceront leurs travaux après la commission conjointe et ils auront pour tâche de commencer la rédaction du texte final », a déclaré le responsable iranien. Les combattants d'Ansarallah du Yémen ont affirmé avoir frappé une cible militaire sur la base aérienne King Khalid dans la ville frontalière de Khamis Mushait, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Salih, a déclaré « La résistance yéménite a mené une attaque de drone contre la base aérienne du King Khalid à Khamis Mushait en Arabie saoudite. Il a précisé que l'opération visait un site militaire important et que la frappe était précise. Cependant, il n'a pas évoqué le type de drone qui a été utilisé lors de cette frappe. Mais la coalition d'agression saoudienne a prétendu avoir intercepté et détruit un drone lancé par Ansarallah du Yémen contre le sud-ouest du royaume. Le dirigeant d'Ansarallah, Abdul Malik Al-Houssi, a souligné que les Yéménites n'attendaient pas l'autorisation d'attaquer ceux qui les ciblaient et en tuaient des milliers. En réponse au plan présumé du ministre saoudien des Affaires étrangères qui a proposé une initiative de paix, Mohamed Al-Braiti, membre du bureau politique du mouvement Ansarallah, avait précédemment déclaré « Tant que la paix ne sera pas instaurée, nous continuerons d'attaquer le territoire saoudien. » En Syrie, deux enfants frères sont tombés en martyr mardi 27 avril dans l'explosion d'un engin non identifié abandonné par les réseaux terroristes dans la ville de Douma, dans la banlieue de Damas. Une source du commandement de la police a indiqué que deux enfants âgés de 11 et 4 ans jouaient au bord de la route dans la ville de Douma au moment de l'explosion d'un engin non identifié abandonné par les terroristes, faisant savoir qu'ils étaient immédiatement tombés en martyr. De même, un civil est tombé en martyr dans l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes dans les fermes du village d'Al-Jabin, dans la banlieue nord de Hama. Une mine abandonnée par les terroristes du front al-Nosra a explosé mardi dans les fermes du dit village, alors qu'un fermier labourait sa terre avec son tracteur, a indiqué Sana. Le fermier est tombé en martyr et des dégâts matériels ont été causés dans son tracteur du fait de l'explosion. Toujours en Syrie, les habitants du quartier Al-Zuhur dans la ville de Hasaké ont manifesté mardi contre les FTS et leurs pratiques criminelles à leur encontre, notamment la poursuite de la déconnexion du courant électrique pour le troisième mois consécutif, alors qu'un groupe armé de la milice a pris d'assaut les maisons des habitants dans le quartier d'Al-Azizia. Le correspondant de Sana, Asaka, fait savoir qu'une manifestation avait eu lieu dans le quartier Al-Zour, à l'accès sud de la ville de Asaka, contre la milice FTS qui déconnecte le courant électrique dans le quartier depuis plus de 3 mois. Les manifestants ont réclamé la fin des pratiques hostiles des FTS et l'enlèvement des jeunes Syriens habitants de Asaka que les FTS voulaient recruter dans leur rang. Dans la partie est de la ville, le correspondant a indiqué qu'un groupe armé de la milice avait pris d'assaut une maison située à proximité d'un abattoir de viande dans le quartier d'Al-Azizia et avait menacé les habitants de la maison. Le nouveau coronavirus pourrait être lié à une fuite d'un laboratoire biologique américain, a déclaré mardi Vyacheslav Volodin, président de la Douma, chambre basse du Parlement russe. Il y a eu une fuite d'un de ces laboratoires qui les ont ouverts dans le monde. Il serait juste que le gouvernement de la Fédération de Russie soulève la question de la responsabilité de l'épidémie de COVID-19, a affirmé M. Volodin lors d'une session du Conseil des législateurs. Les laboratoires américains où les scientifiques étudient, explorent et peut-être même créent de nouvelles armes biologiques sont maintenant situés en Géorgie, dans certains pays d'Europe de l'Est. Cela doit être ramené sous contrôle, a-t-il indiqué. Dans un communiqué officiel, certains médias ont rapporté que les États-Unis ont installé de nouveaux laboratoires biologiques dans 25 pays et régions du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et de l'ancienne Union soviétique, dont 16 dans la seule Ukraine. Manifestation au Tchad contre le CMT et l'ingérence de la France. de jeunes manifestants répondant à l'appel de partis d'opposition et d'organisations de la société civile ont sorti dans la nuit de lundi à mardi dans les rues de N'Djamena, la capitale tchadienne, pour exprimer leur opposition au Conseil militaire de transition CMT et à l'ingérence de la France, selon des médias locaux. Dans un concert de casseroles et de sifflets, ils ont appelé à la démission du CMT, censé gérer le pays pour une transition de 18 mois suite à la mort du président Idriss Déby le 20 avril dernier. Ils ont également proféré des slogans anti-français et brûlé des drapeaux tricolores. Lors des obsèques de M. Déby vendredi dernier, le président français Emmanuel Macron avait promis d'accompagner le CMT durant la transition. Dispersée par les forces de l'ordre, cette manifestation avait été initiée par le mouvement citoyen Vakitama. L'or est venu en arabe tchadien, lancé par plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté mardi les Sud-Africains à voter lors des élections locales prévues pour octobre de cette année, demandant aux électeurs d'utiliser leur vote pour lutter contre la corruption et le pillage des ressources de l'État. Je vous invite à démontrer par votre vote votre intolérance face à la corruption, au vol et à la mauvaise gestion des fonds qui sont destinés à votre bénéfice, vous, le citoyen, a-t-il déclaré dans son discours prononcé à l'occasion des célébrations de la Journée de la Liberté. Il a souligné que le vote des citoyens était crucial pour s'assurer que leur voix soit entendue. Les citoyens qui ne sont pas satisfaits des élus doivent utiliser leur vote pour les chasser du pouvoir, a-t-il dit. Monsieur Ramaphosa a également reconnu que 27 ans après les premières élections démocratiques, des millions de personnes vivaient encore dans une pauvreté et un dénuement absolu. Il a estimé que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour changer la situation des citoyens. La Journée de la Liberté est célébrée le 27 avril en Afrique du Sud. Elle fête la liberté et commémore les premières élections post-apartheid organisées ce jour-là en 1994. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Premier clash US Navy CGRI. Alors même que des informations non confirmées font état d'une frappe au bateau piégé contre un pétrolier britannique au large de Yanbu, sur la côte ouest saoudienne, où le CENTCOM a placé son QG, ses patriotes, ses troupes depuis le mois de janvier, et ce par crainte d'avoir à faire face au CGRI. L'US Navy vient de publier une vidéo mise en scène, un super clash US-CGRI dans le golfe Persique. Les images sont bien récentes car elles datent du 2 avril. Il s'agit d'un premier incident en 2021, dit la marine américaine, visiblement contente qu'il n'ait débouché sur rien de plus grave. La vidéo montre un navire du CGRI bloquant littéralement la route devant l'USCGC Monomoy et provoquant superbement l'arrêt soudain du navire pétrolier US qui cesse même par crainte d'appareiller. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, le CGRI en fait autant avec un autre navire de la garde côtière américaine, l'USCGC Wrangell. La porte-parole de la 5e flotte de la marine au Moyen-Orient qui commente les vidéos en est d'ailleurs particulièrement navrée puisque les équipages des deux navires américains ont émis plusieurs avertissements via la radio de commande suivie du klaxon du navire sonnant 5 fois en vain. Et dire que cette manœuvre de blocage sensationnelle du CGRI a duré près de 3 heures après que les États-Unis ont émis l'avertissement et effectué des manœuvres défensives, à savoir se mettre à l'abri de toute éventuelle attaque en provenance du destroyer iranien qu'escortaient 3 vedettes rapides du CGRI. La porte-parole de la 5e flotte de la marine au Moyen-Orient indique que cette confrontation représente le premier incident dangereux depuis le 15 avril 2020. tout en regrettant la période 2018-2019 où l'Iran avait en grande partie mis fin à ce genre d'incident. En 2017, la marine a enregistré 14 incidents dangereux ou non professionnels avec les forces iraniennes et il a enregistré 35 incidents en 2016 et 23 incidents en 2015, dit Rebecca Ribarik, la porte-parole de la 5e flotte américaine au Moyen-Orient. Cet incident est survenu juste à la veille des pourparlers de Vienbis, signe que le coup au plan Global Action conjoint ne marche plus et que les Iraniens sont déterminés à aller jusqu'au bout pour faire payer aux Américains le prix de leur confiance trahie. Signe des temps, la publication de cette vidéo qui devrait bien être projetée en cours de discussion israélo-américaine irano-centrique en cours suit de peu un autre aveu d'impuissance US qui date lui aussi de quelques heures. En parlant de 3000 missiles iraniens de haute précision, chiffre parfaitement approximatif, le porte-parole du Pentagone a tenté lundi soir d'envoyer un message aux dirigeants sionistes. Oubliez toute aventure contre l'Iran. Il dispose d'une force militaire capable de vous infliger de terribles dégâts. Ce n'est ni trop marrant pour une entité qui vient de recevoir en plein Negev un Fateh 110 syrien. Estip Brown, analyste militaire, commente. On ne sait toujours pas s'il s'agissait d'une réponse iranienne au sabotage du réacteur Natanz le 11 avril ou pour délivrer un message aux dirigeants de Tel Aviv les sommant d'arrêter les attaques contre les intérêts iraniens et syriens en Syrie. Quelle qu'en soit la raison, l'attaque au missile contre Dimona a eu un impact dévastateur sur la psyché des chefs militaires israéliens. Les craintes d'Israël ont été surtout exacerbées par le rapport du Pentagone dans lequel il parle de la possession par l'Iran de 3000 missiles balistiques de haute précision. Le commandant du CENTCOM, Kenneth McKenzie, a averti que les missiles balistiques iraniens représentaient le plus grand danger pour les États-Unis et certes Israël. Il a noté que l'Iran avait réalisé au cours des 5 ou 7 dernières années des progrès significatifs et qualitatifs pour ses missiles balistiques et leur nombre a augmenté et qu'il possédait environ 3000 missiles avec une portée différente et une haute précision, ce qui soulève de grandes inquiétudes. Le Pentagone dit en plus qu'il est conscient de la capacité de l'Iran à diriger des milliers de missiles contre Israël. Et pire, qu'il n'existe pas de système aussi précis soit-il pour intercepter ces missiles. Il est évident que le dôme de fer israélien n'a pas réussi à intercepter le missile iranien tombé près de Dimona, de même que le système Patriot n'avait pas réussi à intercepter les missiles yéménites qui ciblaient l'Arabie saoudite. Certes, le Pentagone ne dispose pas de rapport précis sur le niveau de progrès des armes iraniennes et Kenneth McKenzie dit que les Américains ont besoin de temps pour évaluer ces armes. Les États-Unis n'ont d'autre choix qu'éviter toute escalade militaire directe avec l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous allons essayer de répondre à une question très particulière qui est la suivante. Est-ce que Israël a le droit de capturer un meurtrier d'une femme juive après avoir fait irruption chez elle, la tuer à couteau, donc à coup de couteau en 2017? Bien sûr, il s'agissait d'une personne déséquilibrée et délirante. C'est pour ça qu'il se trouve depuis dans un centre psychiatrique sous la surveillance étroite de la police. Alors, il a été reconnu coupable en Israël, mais Israël ne veut pas attendre la procédure d'extradition vers Israël, car Israël pense que cette procédure est trop longue. Nous allons nous pencher particulièrement sur la question suivante. Pourquoi Emmanuel Macron, le président français, évidemment, sous la pression israélienne, veut changer la loi, car il pense que cette loi concernant les personnes déséquilibrées, quand elles commettent des crimes, sont évidemment très légères. Alors, très sincèrement, donc, on voit ici la pression israélienne, la colonisation d'Israël en France, car on voit très bien ce pion qui est Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions à l'aide des experts des questions internationales en disant bonjour à M. Philippe Hugon, expert des questions internationales et reporter de guerre. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Et bonjour aussi, un grand salut à vos auditeurs et à M. Hugon, que j'estime particulièrement.
Un plaisir de vous recevoir, M. Dortiguier. Ma première question va s'adresser à vous. Alors, comment un président français se permet de compromettre la Constitution alors qu'il fait partie du pouvoir exécutif, de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire en exigeant le changement de loi, car il s'agit encore une fois d'une victime juive?
Eh bien, cela signifie que, contrairement à une formule du théâtre classique chez nous, M. Macron n'est pas maître de lui comme de l'univers, c'est-à-dire qu'il est, en réalité, il dépend de forces qui l'ont porté au pouvoir, qui le maintiennent au pouvoir, et surtout, il est le chef d'État d'un pays, de notre propre pays, qui est évidemment de plus en plus affaibli sur tous les plans, sur le plan surtout financier. Et donc, on peut dire qu'il est naturellement soumis à des pressions. Et cette pression, du reste, n'est pas simplement le fait du tempérament, enfin, de M. Macron. C'est-à-dire, ce n'est pas sa fragilité qui est en question, simplement, ni même celle du pays. C'est un processus également qui est inscrit, il faut le dire, dans la Constitution, non pas écrite, voyez-vous, mais dans l'esprit de la formation de l'État d'Israël, qui a été, vous savez, créé comme État sur la demande soviétique. Il faut toujours le dire, pas américaine, mais c'est Staline lui-même qui a demandé, par Gromyko aux Nations Unies, la formation de cet État sous des prétextes de réparation morale. Et donc, il y avait cette idée morale. Ce n'est pas du tout simplement un État qui rassemble des colons sionistes. C'est un État qui prétend, avec le titre d'Israël, justement, parler au nom des Juifs en général, une sorte de Vatican, si je puis dire, du judaïsme, comme il y a le Vatican des catholiques, et donc se permet, disons, de juger indigne d'être apprécié, disons, des cas concernant les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs dans le monde sont des, si je puis dire, aux yeux des fondateurs de l'entité de l'État, qui vient de l'État d'Israël, sont des sujets, disons, de l'État d'Israël, des sujets, disons, potentiels. Et alors là-dessus, évidemment, on ne met pas ceci très bien en évidence, vous voyez. C'est écrit, ce n'est pas que ce soit écrit tellement dans la Constitution, c'est un état d'esprit, voyez-vous. C'est la philosophie, si je puis dire, de la philosophie politique de cet État-là, et qui ne fera que s'accroître, à mon avis, de plus en plus, puisque, bien sûr, dans l'affaire en question, il y a une grosse erreur. C'est l'erreur que commet M. Macron aussi, pourtant qui a été licencié de philosophie, je crois, mais il est plus jeune que moi, et donc il n'a pas eu cette formation que nous avions, nous, en licence de philo, en psychopathologie, c'est-à-dire formation pas du tout psychanalytique, c'est une formation, disons, à l'hôpital, et on m'a présenté d'ailleurs des cas de schizophrènes à l'hôpital qui sont capables de tuer les gens qu'ils aiment, voyez-vous. Et donc, ce n'est pas du tout, comme l'a dit un avocat parisien, le fait d'absorber des drogues qui vous enlève le jugement, ou ce qu'on appelle le discernement. Non, il y a des maladies mentales très profondes, voyez-vous, qui font que cet homme, d'ailleurs, en question, qui était un ami, je crois savoir, une relation, disons, de la dame qu'il a assassinée, qui est une connaissance, comme on dit. Donc, est dans cet état-là, et bien sûr, les experts internationaux en Israël, en France, le savent. C'est une agitation, si je puis dire, une agitation pour faire un pas supplémentaire, voyez-vous. Je conclurai là-dessus. Tout le monde sait qu'il va y avoir des troubles en Europe, dans le monde. Les situations que nous connaissons aujourd'hui ne peuvent pas durer ainsi. Monsieur Hugon, je crois, le reconnaîtra aussi. Mais l'État d'Israël prend ses précautions, voyez-vous, et veut apparaître comme le refuge, si je puis dire, de tous les Juifs. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont contre. La grande majorité, à mon avis, du judaïsme français n'est pas d'accord. Mais disons, peu importe son avis, c'est une puissance colossale, voyez-vous, puissance doctrinale. Vous savez, en toute chose, il ne faut pas regarder seulement la matière, il faut regarder aussi les idées. Et Israël est fondé sur des conditions matérielles, mais également sur une idée ancienne, c'est l'idée de l'Ancien Testament, vous savez, et vous, c'est pas moi qui vous apprendrai ce qu'il y a dans la Bible, mais bon, nous le savons très bien, et Israël se prépare à être l'héritier, voyez-vous, de cette, des anciens prophètes, etc., et donc commandé à avoir une fonction, si je puis dire, un peu religieuse, voilà. C'est pas seulement laïque, mais religieuse. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là.
Merci, M. Dortiguier. À présent, je m'adresse à M. Philippe Hugon. M. Hugon, vous êtes un homme de terrain, vous êtes reporter de guerre. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons entendu les propos de M. Dortiguier concernant l'ingérence et la pression israélienne dans les affaires intérieures et extérieures de la France. Mais j'aimerais que vous fassiez vivre le débat d'aujourd'hui en livrant votre analyse sur la question.
Oui, alors je crois qu'il faut séparer ce volet en deux parties. Il y a d'une part la partie psychiatrique, c'est-à-dire l'état mental de la personne qui a commis cet attentat, et d'autre part le deuxième volet qui est un volet politique. Alors sur le plan médical et psychiatrique, je dirais qu'il y a des experts qui sont capables de pouvoir juger l'état de la personne qui a commis cet attentat. Bon, sur ce point-là, on peut se mettre d'accord avec les psychiatres pour juger de l'état de la personne. Après, il y a le volet politique qui est un volet beaucoup plus important, puisque là, on sait qu'Israël, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a toujours joué sur la culpabilité des pays européens et des États-Unis sur la question juive et sur la culpabilité des pays qui ont laissé faire le régime nazi. Hein, ou du moins qui ont eu une certaine complaisance avec ce régime nazi. Alors sur un plan politique, je dirais qu'Israël ne tient plus du tout compte et des choses comme celle-ci et se sert justement de cette culpabilité pour pouvoir imposer un certain nombre de choses au monde occidental. Et on le voit bien aujourd'hui, et c'est patent, quand Israël se permet d'ingérer dans les affaires françaises, mais pas seulement françaises, hein, dans toutes les affaires européennes et les affaires américaines, pour imposer leur vision de la politique et des sanctions qu'ils veulent appliquer à un certain nombre de pays. Si cet attentat avait été commis par un Africain et qu'un État africain demande comment que cette personne soit rapatriée en Afrique, je pense que la demande aurait été nulle et non avenue. Personne n'aurait tenu compte de cette demande. Là, on en tient compte parce que c'est Israël, parce qu'Israël représente financièrement et économiquement un certain poids, notamment aux États-Unis et un petit peu, bien sûr, dans l'Union européenne. Donc, on tient compte également de cette avis. Des responsables politiques israéliens. Néanmoins, Israël a l'habitude d'ingérer dans les affaires intérieures d'un grand nombre de pays. Hein. On l'a vu à travers les décennies passées, des officiers des services secrets israéliens, du Mossad, venir assassiner des gens, venir enlever des gens dans des pays et ingérer comme ça. Donc moi, je ne suis absolument pas surpris que la présidence française, et notamment Emmanuel Macron, qui n'est, je dirais, pas vraiment un président, mais qui est plutôt en pantin dans les mains des financiers et dans les mains des Israéliens, donc on ne peut pas compter du tout sur la politique étrangère française, qui n'a plus aucune autonomie, qui n'a plus aucune indépendance. Donc, je dirais, quelque part, c'est la suite logique d'une politique menée par la France depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, de se plier aux exigences d'Israël, en faisant, bien sûr, de la part des dirigeants israéliens, culpabiliser depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale les pays, les responsables politiques des pays occidentaux, afin qu'ils cèdent à leurs exigences. Ce qui est un peu gros aujourd'hui de pouvoir accepter quand même ce genre d'ingérence. Et moi, je trouve ça extrêmement triste de la part d'un grand pays comme la France d'accepter ces exigences israéliennes.
Pierre Dortiguier, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hugon quand il parle d'une politique dépendante d'Israël, une politique extérieure et intérieure de la France, aller jusqu'à compromettre la Constitution, pousser un président français de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire d'un pays et donc exigeant un changement de loi Est-ce que la France connaît vraiment ses intérêts et où est l'intérêt de la France d'écouter aveuglément ce que Israël dit?
Eh bien, l'intérêt de la France, la menace, c'est-à-dire que, vous savez, il y a deux aspects dans une organisation. Une organisation d'un État, par exemple, est créée pour maintenir l'ordre chez lui, mais il peut également, disons, avoir intérêt au désordre chez ses voisins. Et n'oubliez pas quand même que la première petite révolution que nous avons connue, mais qui a été très importante en France après la guerre, c'est-à-dire le bouleversement de 1968, a été fait quand même par des gens bon, qui étaient assez proches quand même des milieux israéliens. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle qui le dit dans ses mémoires. Il parle par exemple de ce qu'avait fait la 5e République pour se dégager de l'influence israélienne, qui était très forte sous la 4e. Il racontait que le ministère, par exemple, des armées, boulevard Saint-Germain, était toujours visité par des officiers israéliens, etc., et qu'il avait arrêté, disons, cette influence. Lui-même a payé ceci, puisque mai 68 a été en fait une réponse israélienne à la politique d'indépendance de Gaulle de 1967, voyez-vous. Bon, ça s'y est. Alors, on peut parler de la culpabilité, oui. Vous savez, comme on dit, rira bene qui rira ultimo, on dit en latin, en italien. Rira bien qui rira le dernier quand on fera le compte de tous les massacres des 19e, 18e et 20e siècles. Hein. Mais enfin, je crois dire que cette vocation qu'a l'État d'Israël, je le répète, une vocation qui n'est pas simplement locale, c'est une vocation générale. Ceci, d'ailleurs, n'est pas très bien vu en France, très bien compris, je dirais, de l'irréligiosité ambiante, voyez-vous. Nous manquons de ce point de vue de profondeur religieuse, en général, même dans les milieux qui se disent religieux, voyez, nous sommes un peuple un peu léger. Et on n'a pas pris ça en considération, et pourtant, c'est marqué. En effet, regardez, un homme comme Eichmann, par exemple, a été jugé en Israël. Bon, pourquoi il a été jugé en Israël particulièrement, puisque l'État d'Israël n'existait pas au moment où des actions qui lui étaient reprochées. Enfin, il y a des antécédents juridiques, voyez-vous. Et je crois que l'autorité israélienne, en France et en Europe, et dans le monde, moi je mets dans le monde, je dis bien le monde, pas simplement l'Ouest, mais l'Est, sera de plus en plus importante dans les temps qui viennent, à cause justement du désordre économique, du désordre social qui va venir croissant. Et ce n'est pas du tout une vision pessimiste que j'ai, c'est une vision logique. Je crois que si les Israéliens ont agi maintenant, c'est qu'ils savent que les temps sont mûrs. Voyez-vous, ce sont des gens quand même qui viennent de... Ce ne sont pas des gens qui viennent de rien, ce sont des gens qui ont des formations quand même intellectuelles, etc., solides, et connaissent très bien les systèmes. Et je crois qu'ils font un bon décès avec cette affaire de Mme Halimi. Et je crois que ce qui m'a frappé, ce n'est pas tellement l'attitude de la famille de Mme Halimi, c'est l'attitude de l'avocat, qui est un avocat connu du 16e arrondissement chez nous, d'ailleurs d'un homme très intelligent, je dois dire, très actif, et lui-même, disons, a prétendu, par exemple, que c'est tout à fait normal que cet homme soit jugé par un État étranger, parce que l'État d'Israël défend, c'est pas un État territorial, c'est un État qui a une vocation de défendre des gens qui sont des Juifs à l'étranger aussi. C'est une vocation qui est marquée dans leur dogme. Et il faut comprendre ce que je réponds, c'est M. Hugon l'a bien vu ça, mais il faut comprendre les choses, non pas simplement par des intérêts matériels, mais également par des idées. Les idées mènent le monde, voyez-vous. Il y a de bonnes idées, de mauvaises idées, évidemment. Vous pensez bien que lorsque des Palestiniens se font massacrer, ils ne se font pas massacrer pour des raisons économiques, ils se font massacrer pour des raisons d'idées. C'est-à-dire qu'on estime qu'ils n'ont pas le droit d'être sur une terre sacrée. Mais ça, c'est marqué. Moi, je l'ai entendu dire combien de fois, quand j'étais à la Sorbonne, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. C'est à nous que ça appartient. Bon, on peut concevoir cela, mais disons que attendons le jugement dernier pour savoir si ces gens-là ont fait comme disait le président Giscard d'Estaing, ont fait le bon choix. Je ne crois pas. Je crois que c'est un choix qui n'est pas heureux, qui n'est pas juste et qui ne correspond pas du tout, d'ailleurs, au commandement de Dieu.
Oui. Monsieur Hugon, Monsieur d'Ortiguier parle d'un désordre économique et politique créé par Israël. Est-ce qu'on peut ajouter à cela le désordre sanitaire?
Bon, on peut bien sûr ajouter à ça des ordres sanitaires. Il faut bien savoir que le Covid est un virus qui a été délibérément lâché dans la nature de façon à pouvoir mieux contrôler les peuples, puisqu'on arrive à imposer par le domaine sanitaire des lois et des restrictions qui n'auraient jamais pu être mises en place pour des raisons économiques. Donc le désordre social, il va arriver, il y en a très longtemps, 8, 10, 12 ans, mais je pense que les Français n'imaginent pas, quand je parle des Français bien sûr, mais des Européens et du monde occidental d'une manière générale, je pense qu'ils n'imaginent pas à quel point leur vie va changer dans 10 ans. C'est assez incroyable et les bouleversements qu'on va avoir dans les années qui viennent. Et à l'heure d'aujourd'hui, personne n'est prêt à le comprendre. Très peu de gens sont capables d'analyser les choses et de voir comment les choses vont évoluer, dans le mauvais sens, bien sûr. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, je dirais 80% de la population, n'imaginent pas les transformations des sociétés occidentales. Donc on va voir ce désordre social, ce désordre religieux, ce désordre économique. Et il faut savoir que la situation financière dans le monde occidental est catastrophique. Les États-Unis sont en faillite. Oui, je vous écoute.
Monsieur Hugon, est-ce que la France, particulièrement Emmanuel Macron, a le choix donc entre la bonne et la mauvaise décision? Est-ce que la France est colonisée par Israël?
Oui, ben, on a toujours le choix. Ce n'est pas un problème de choix, c'est un problème de courage politique. Et Emmanuel Macron ne va pas couper la main des gens qui lui donnent de l'argent. Donc on ne peut strictement rien attendre d'un président comme Emmanuel Macron. Ce n'est même pas lui qui dirige la France. Ce sont des conseillers de l'ombre, des gens dont on n'entendra jamais parler dans les médias, mais ce sont eux, les réels décideurs et les réels gouvernants de la France. Emmanuel Macron ne fait que de suivre une politique qui lui a été imposée par la haute finance. Donc on ne peut absolument plus parler d'indépendance du pouvoir en France. Ce n'est pas vrai. C'est ça, toutes les personnes qui analysent un petit peu la situation politique en France peuvent dire la même chose. On n'a plus aucune indépendance, qu'elle soit économique, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit religieuse. On impose au peuple un certain nombre de choses et ça marche très bien. Le Covid-19 n'est qu'une répétition de ce qui arrivera dans quelques années en beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, moi je dirais que la situation dans sa globalité devient catastrophique. Et très peu de gens s'en rendent compte aujourd'hui. On arrive à endormir les gens avec des émissions de télévision qui abrutit les gens, puisque la télévision, qui était un formidable outil de culture et de connaissance, devient un outil d'abrutissement. Et on se sert de tous ces médias, enfin, les politiques se servent de tous ces médias pour imposer leur politique à eux, pas celle des peuples, mais leur politique à eux. Pour que les choses changent, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté politique et un réel courage de modifier les données du problème. Mais aucun homme politique aujourd'hui n'aura le courage de pouvoir le faire. Ça, c'est une certitude.
Pierre Dortiguier, à votre tour, est-ce que vous croyez que le président français a le choix ou la France est obligée de se soumettre à la colonisation d'Israël?
C'est-à-dire que tout homme, bien sûr, a le choix de ses décisions. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien dire qu'il refuse, évidemment. On a une certaine liberté. Mais s'il veut rester au pouvoir et se maintenir, je crois qu'il est obligé de faire ce qu'il fait. Parce que c'est un homme qui est... je ne parle pas de la psychologie, il a certainement des qualités d'administrateur, d'autres. J'ai dit une fois à votre radio qu'il n'était pas fait pour commander, il était fait pour obéir, pour suivre des lignes, mais il ne peut pas imaginer ou, disons, avoir une certaine liberté, disons, d'action. Je crois qu'il est un peu comme ces gens qui sont d'accord avec le dernier qui a parlé. Voyez-vous, c'est cette impression de faiblesse qu'il donne, et je ne crois pas dire qu'il pourra se maintenir au pouvoir une seconde fois. Je crois qu'il serait remplacé par certainement qu'il partirait avec la Ve République. C'est une idée que j'ai en tête, qui ne repose évidemment sur aucune connaissance particulière. Ce n'est qu'une impression d'homme qui a vécu, disons, le début de la Ve République, bien sûr. Je crois qu'elle est appelée à disparaître et à être remplacée, disons, par un système, disons, peut-être qui aura des allures de droite, entre guillemets, mais dans lequel, justement, l'influence israélienne sera de plus en plus forte.
je dois dire, autour de M. Zemmour, autour de gens comme ça, il y a véritablement, y compris dans l'armée française, je me permets de le dire parce que j'ai d'anciens camarades, des militaires qui sont d'anciens élèves, je dois dire que la propagande est très très forte, bien sûr, qui est dirigée contre l'islamisme, c'est en réalité non pas contre le terrorisme, mais contre la religion musulmane, par exemple, là-dessus, et contre la religion en général. Vous avez, disons, des tendances qui sont beaucoup plus obscurantistes chez nous que nous ne l'avions, disons, au début même du siècle, même sous Mitterrand, voyez-vous. Je crois que de ce point de vue, M. Macron exprime aussi la faiblesse de la société. Il n'est pas responsable de ce qu'il est, il est le responsable de lui-même, disons, mais il est créé par les conditions de vie, il est créé par... par le certain relâchement moral qu'il y a, voyez-vous, on n'a pas des gens qui dominent véritablement les affaires, que ce soit des restes dans beaucoup de domaines, pas seulement domaine intellectuel, aussi domaine de l'enseignement, par exemple, que je connais bien, je vois que les gens dominent de moins en moins leur matière. Et donc, il y a un laisser-aller, voyez-vous, ce qui donne justement l'audace à des leaders israéliens, par exemple, de faire des demandes qu'ils n'auraient jamais osé faire, par exemple, même sous Mitterrand. Ah non, pas du tout, même sous Chirac. Non, il y a un état de décomposition de la société, en général dans le monde, en France en particulier, à mon avis, qui fait qu'on est de plus en plus faible comme un organisme qui s'affaiblit et naturellement peut être emporté par des conditions, disons, qui laissent insensible d'autres personnes. Je crois que notre État, notre pauvre pays, est un État, je dirais bien que c'est l'État malade de l'Europe même, voyez-vous. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sert, et qui est la force du pays aujourd'hui, c'est l'armement atomique, la flotte, des choses comme ça. Oui, bien sûr, là-dessus, nous avons encore des armes, mais sur le plan économique et sur le plan humain surtout, je ne crois pas que M. Hugon me dire le contraire, sur le plan humain, nous avons véritablement affaire à des personnes, des qualités qui sont, je dirais moi, qui ai connu l'Europe, bien inférieures en tout cas à celles de nos voisins, en particulier même espagnols et allemands, voyez-vous. Je connais bien les deux pays maintenant et je dois dire que je sens qu'il y a une maladie française, un mal français, comme disait M. Peyrefitte, ancien ministre, qui est très profond, voyez-vous. Et malheureusement, nous ne savons en sortir en France que par des révolutions. Les autres pays s'en sortent par des réformes, voyez-vous, et nous des révolutions. Mais pour faire une révolution, je ne crois pas que notre jeunesse soit prête. Notre jeunesse est trop marquée par les illusions, voyez-vous. Il faut souffrir, et je crois que M. Hugon vous le dit, nous sommes appelés à souffrir encore, et bien sûr à mûrir dans les souffrances. Ça, évidemment, c'est un des bienfaits de la providence divine, bien sûr.
Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et quant à moi, je vous laisse toutes et tous à la garde de Dieu. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Le subterfuge de la stagflation, le vrai désastre caché par la pandémie. Le débat est ouvert. Le surendettement des États, des entreprises, des individus consommateurs et travailleurs entraînera-t-il une vague catastrophique d'inflation ou de déflation? Brandon Smith prévoit une vague catastrophique de stagflation. Brandon Smith lève le voile sur la présence fadaise pandémique pour expliquer l'effondrement économique que provoqueront inévitablement les confinements déments qu'imposent plusieurs gouvernements. Mais quelques explications avant de se lancer dans le débat. Inflation. Accroissement excessif des instruments de paiement, billets de banque, capitaux actifs et obligations, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie, s'oppose à déflation.
L'inflation entraîne la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et la dépréciation du salaire des travailleurs qui, s'ils sont surendettés, ne parviennent plus à rembourser leurs emprunts et sont jetés à la rue. Déflation. La déflation est un gain de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une baisse du niveau général des prix. La déflation entraîne la baisse de la valeur des actifs, actions et obligations, et la dévalorisation du capital constant, du capital fixe. Et stagflation. La stagflation est la situation d'une économie qui souffre simultanément d'une croissance économique faible ou nulle et d'une forte inflation, hausse des prix. Cette situation est souvent accompagnée d'un taux de chômage élevé, d'une baisse du pouvoir d'achat. Bref, c'est l'effondrement de l'économie. Exemple, le Venezuela aujourd'hui, l'Allemagne des années 20. Dans l'actualité économique récente, les gros titres sont dominés par les inquiétudes concernant la hausse des rendements obligataires. L'augmentation des rendements obligataires est le signe d'une possible flambée de l'inflation et logiquement, les médias appellent la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt afin de prévenir cette inflation. L'augmentation des rendements obligataires signifie également que les investisseurs disposent d'une alternative compétitive aux actions, deux facteurs qui pourraient déclencher une chute des marchés boursiers. Si l'on étudie l'histoire réelle du crash boursier pendant la Grande Dépression, on constate que ce sont les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui ont causé et prolongé le désastre après avoir créé un environnement d'argent facile et bon marché tout au long des années 1920. Cela soulève alors la question « inflation ou déflation ?» La Réserve fédérale, la Fed, va-t-elle le refaire? Probablement pas exactement de la même manière, mais on verra bientôt des éléments d'inflation et de déflation sous forme de stagflation. La Banque centrale a créé un cercle vicieux et beaucoup pensent que la Fed a délibérément créé ce nœud gordien. Toutes les banques centrales sont liées entre elles par la Banque des règlements internationaux, BRI, et la BRI est une institution globaliste à part entière. Le programme globaliste cherche à déclencher ce qu'ils appellent le Grand Reset, une réforme complète de l'économie globale et du capitalisme en un seul système socialiste global géré par les globalistes eux-mêmes, bien sûr. La Fed a toujours été une sorte de kamikaze institutionnel. Son travail consiste à s'autodétruire au bon moment et à faire sombrer l'économie américaine avec elle, tout cela au nom de la diffusion du culte de son idéologie globaliste. La seule inconnue pour l'instant est de savoir comment ils vont s'y prendre pour saboter l'économie. La Banque centrale continuera-t-elle à laisser l'inflation faire exploser le coût de la vie aux États-Unis ou interviendra-t-elle avec des taux d'intérêt plus élevés et permettra-t-elle au marché boursier de s'effondrer? Dans les deux cas, on sera confronté à une grave crise économique dans un avenir proche. L'augmentation de l'inflation signifie-t-elle une reprise économique? Les économistes traditionnels affirment souvent que l'augmentation des rendements et de l'inflation est une bonne chose. Ils affirment que c'est un signe de reprise économique rapide. Mais Brandon Smith n'est pas de cet avis. Pour lui, si inflation et reprise étaient identiques, il n'y aurait pas eu d'effondrement économique total en Argentine en 2002, en Yougoslavie en 1994 ou à Weimar en Allemagne au début des années 20. S'agit-il d'une reprise? Non, c'est plutôt la dévaluation rapide du pouvoir d'achat du dollar en raison de l'impression massive de monnaie du fait des mesures de relance. La Fed et le gouvernement américain s'achètent d'une poussée à court terme de l'activité économique, mais à un coût caché. C'est une condition que l'indice du dollar ne commence même pas à prendre en compte, mais qui est évidente dans les prix des biens et des produits de base nécessaires. Gardez à l'esprit que tout cela est fait au nom de la réponse à la pandémie. La pandémie est l'excuse ultime pour la destruction active de l'économie américaine. Les mesures de relance se sont traduites par le lancement aléatoire d'argent par hélicoptère, des milliards étant siphonnés principalement par les grandes entreprises et par la fraude. Les personnes qui réclament un chèque de 2 000 $ au gouvernement n'ont aucune idée que l'aide sociale aux entreprises se poursuit depuis un an, avec des milliards de remboursements d'impôts rétroactifs. Toute cette impression d'argent va causer des dégâts quelque part. On ne peut pas l'éviter. La prochaine fois, nous vous présenterons la suite de l'article rédigé par l'économiste américain Brandon Smith.